Aujourd'hui, vous allez nous raconter la légende de Saint-Onet. Et Madame Julien, pour illustrer cette légende, qu'avez-vous choisi ?
La légende de Saint-Onet prend naissance vers la fin de la période gallo-romaine. Et de cette époque lointaine, aucun texte musical ne nous est parvenu. Il faudra attendre le chant grégorien dans les églises à la fin du VIe siècle. Et en ce qui concerne la musique profane, les chansons des troubadours au XIIe, pour avoir des documents fiables. J'ai donc, pour cette fois, abandonné l'idée de faire coïncider l'âge de l'histoire et l'âge de la musique. Vous entendrez un extrait d'un concerto pour harpe d'Haendel. Laissez-vous emporter. La ligne mélodique à la pureté de l'eau qui court. La harpe et ses bruits d'eau accompagnent la barque. La légende naît, mystérieuse, faisant lever la vision d'un saint auréolé par sa gloire.
Antonin était fils de Fraiselet, roi de Frédélas, aujourd'hui Pamiers. Devenu prêtre de la nouvelle religion chrétienne, il fut envoyé par le pape Clément Ier avec d'autres missionnaires pour évangéliser les Gaules. Saint-Denis, chef de la mission, assigna à chacun une part du territoire. Celle qui revint à Antonin fut l'Aquitaine. C'est ainsi qu'Antonin arriva chez les Rutènes, un peuple dur, âpre, inculte comme le pays qu'il habitait. Antonin prêcha sans perdre courage. Par sa mansuétude, il parvint à convertir ce peuple sauvage. Fort de cette victoire, plein d'espoir, Antonin poursuivit son chemin, vénéré ici, condamné là. C'est ainsi qu'il arriva dans une contrée souriante, la vallée de Nobleval, extrême frontière du Rouergue, situé au confluent de l'Aveyron et de la Bonnette, que l'une sépare du Quercy, l'autre de l'Albigeois. En ce lieu régnait un certain Festus qui sacrifiait aux idoles. Il fut pourtant un des premiers à se convertir à la parole du Christ et devint le disciple d'Antonin. Antonin vivait heureux au milieu d'un peuple heureux. Pourtant, il ne s'accordait aucun répit. Parfois, il accomplissait des miracles. Pourtant, un jour, Antonin décida de partir. Une grande tristesse accabla le peuple. On voulut le retenir. On insista pour qu'il revienne sur sa décision. Mais rien n'y fit. Antonin savait que nulle part ailleurs ses efforts ne seraient mieux récompensés qu'ici. Mais à Nobleval, sa mission était accomplie. Antonin partit donc et s'en retourna à Frédélas. À Frédélas, Antonin prêcha l'évangile et renversa les idoles. Mais nul n'est prophète en son pays, et le prêtre connut le sort des prophètes. Ses compatriotes s'opposèrent à ses prédications. Ils épièrent ses pas, lui tendirent des embûches. jusqu'au moment où ils se saisirent de lui et le traînèrent en le rouant de coups jusqu'aux rives de l'Ariège. Là, un soldat eut le devoir de le décapiter, mais le bourreau manqua son geste et le glaive coupa le martyr en deux à partir de l'épaule, de telle sorte que la tête et le bras tombèrent d'un côté, le reste du corps de l'autre. Afin que les chrétiens ne puissent pas recueillir et honorer la sainte dépouille, les gentils s'acharnèrent sur elle, puis ils jetèrent les morceaux au milieu de la rivière avec le dessein de les faire disparaître à tout jamais. Cela se passait le 2 des nones de septembre, dans la première moitié du second siècle. Bien que toutes les précautions fussent prises pour que les reliques du saint ne soient pas récupérées, les fidèles ne se découragèrent pas. Ils attendirent la nuit, puis revinrent près de la rivière. Conduits par l'espérance de retrouver les restes du vénéré martyr, ils échappèrent à la vigilance des soldats et prièrent Dieu d'exaucer leurs vœux. Les eaux se retirèrent pour leur livrer passage et ils purent ainsi, Dieu commandant aux éléments, s'avancer jusqu'aux saintes reliques. Elles étaient là, intactes, unies par le sang que le courant des eaux n'avait pas dispersé. Les fidèles les recueillirent avec respect et leur donnèrent une honorable sépulture selon les rites chrétiens. Cependant, toutes les reliques du saint ne furent pas déposées dans le tombeau et levées près du lieu où il avait souffert. Seul le corps et les membres inférieurs restèrent à Frédélas. Quant à la tête et au bras gauche, des anges les avaient mis sous leur protection. C'est alors qu'apparut une mystérieuse nacelle pour recevoir ces dernières reliques. Les chrétiens et les gentils virent la barque ainsi chargée des précieuses dépouilles descendre le courant de l'Ariège. Elle était tirée par deux aigles aussi blancs que neige, aux ailes déployées comme des voiles. La nacelle entra dans la Garonne. Arrivée à Toulouse, elle s'arrêta, comme si Antonin voulait saluer son ami Saturnin. Puis, elle s'éloigna sur le fleuve. Les reliques descendirent jusqu'à l'embouchure du Tar, où, se tournant brusquement vers l'Orient, elles remontèrent les eaux de cette rivière. Arrivées au Sola, quelques lieues avant Montauban, elles entrèrent dans l'Aveyron et remontèrent cette rivière jusqu'à Nobleval. La maison de Festus se trouvait sur la rive, à la pointe formée par le confluent de l'Aveyron et de la Bonnette. Ce fut là que la nacelle échoua. Ce jour-là, un des serviteurs de Festus se trouvait près de la rivière. Il découvrit l'étrange apparition. Une lumière se mit à briller. Il comprit tout de suite quel était ce précieux chargement. Il appela ses compagnons. Ensemble, ils coururent prévenir leur seigneur. Quand la nouvelle se répandit, la vallée tout entière tressaillit de ferveur et de joie. Les habitants de Nobleval se rassemblèrent et se prosternèrent autour de ce dépôt sacré. Arrivé parmi les premiers, Festus laissa éclater sa propre joie et son admiration. « Je comprends maintenant le sens caché des paroles d'Antonin. Il m'a demandé une demeure durant son passage parmi nous. Aujourd'hui qu'il règne dans le ciel, il vient me la réclamer pour ses reliques. » Festus ne voulut plus garder pour lui une maison qui avait eu la gloire d'avoir pour hôte saint Antonin. Il la fit consacrer afin qu'elle devienne une église. avec de grands honneurs, il fit mettre sur l'autel le chef et le bras du martyr, rendant grâce à Dieu et faisant monter vers lui ses louanges et ses bénédictions. Puis les reliques furent enfermées dans une luxueuse châsse devant laquelle les pèlerins purent venir prier et demander miracles de guérison et de justice. De nombreux rois vinrent s'y prosterner. Et voilà la légende de saint Antonin, telle que je l'ai extraite d'une plaquette réalisée par notre compatriote Michel Ferrer en 1979, intitulée « Histoire et légende de Nobleval ».
Et c'est une très belle légende.
Oui, c'est une légende, vraiment, parce qu'elle a à la fois son côté tragique et son côté merveilleux. C'est une légende parce qu'elle est pleine de symboles que d'autres que moi pourraient peut-être expliquer. Ce sont les aigles blancs. En réalité, dans certaines versions, on ne parle pas d'aigles. On parle plutôt de cygnes. Et ça me paraît très significatif. Le cygne, c'est l'animal de la pureté. Mais la tradition la plus solide veut que ce soit des aigles. Et ces aigles qui ont conduit la barque ou la nacelle de Antonin jusqu'à Nobleval sont restés dans la mémoire des Saint-Antoninois. Ils en ont tiré gloire de ces ailes qui leur ont rapporté les reliques. Tellement gloire que leurs voisins de Caylus, de Laguépi, de Penne, de Casal et d'ailleurs, agacés par cette prétention des Saint-Antoninois, les ont surnommés l'Auspicats de l'aigle. Ça veut dire beaucoup, ça. Il y a d'autres symboles dans cette légende. Il y a la barque, il y a l'eau, et il y a même cette décapitation. Il n'y a pas beaucoup de martyrs qui aient été décapités. Enfin, tout est là, et il serait intéressant, sans doute, de faire une étude sur le symbolisme de cette légende. Mais cette légende est restée longtemps, elle s'est maintenue, elle s'est répandue. Savez-vous ce qu'on pense, ou ce que pensent certains érudits? Ils pensent par exemple que c'est du nom de Antonin que vient le nom du quai de Tunis à Toulouse. C'est en effet là, dit la tradition, que la barque a fait relâche depuis Pamiers. Savez-vous aussi qu'il y a dans le cloître des Jacobins à Toulouse une chapelle Saint-Antonin qui vient d'être restaurée récemment et sur les murs de laquelle courent les fresques racontant la vie de Saint-Antonin? Enfin, nous avons ici à Saint-Antonin aussi le rocher de Santos Festos et la source de Santos Festos dont certains prétendent qu'elle a été cette source et qu'il a été ce rocher ainsi nommé en l'honneur de Festus, ce roi légendaire ou ce seigneur légendaire qui a accueilli les reliques de saint Antonin. Saint Antonin est partout ici. Thank you. Mais revenons à l'histoire. Il n'est pas du tout sûr que de nombreux rois aient visité les reliques de Saint Antonin à Nobleval. En tout cas pas Charlemagne, comme le veut ou le prétend la tradition. Sans doute a-t-il existé, et existe-t-il toujours peut-être, une fontaine dite de Charlemagne dans la vallée entre le Carandier et Selgues, à Cantenac. Mais peut-être cela une attribution de nom abusive. Nous ne sommes sûrs que d'une chose, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est de la visite du roi d'Aquitaine, Pépin, en 825. En cette époque, de grandes foires religieuses où une foi profonde habite l'intellect, la sensibilité, les rêves, et conditionne la vie de tout le monde sans exception, il est certain que la possession de reliques est une richesse que nous avons de la peine à concevoir aujourd'hui pour un monastère. C'est l'occasion d'attirer d'innombrables pèlerins qui viendront ici adorer ces reliques par conviction religieuse sans doute, mais aussi pour leur demander d'exaucer des vœux, pour les guérir de maladies. Sait-on que pendant tout le XIIe et le XIIIe et le XIVe siècle, chaque fois que la maladie menaçait, c'est-à-dire la peste, on faisait sortir les reliques de Saint Antonin dans la ville, pour protéger la ville de la maladie contagieuse. De ce fait, grâce à cet attrait des reliques, le monastère qui attire du monde va faciliter le développement de la ville, comme nous l'avons dit la dernière fois. Et on peut imaginer que la ville a commencé de se développer tout au long de la rive de l'Aveyron, là où est le pont aujourd'hui, et les maisons qui bordent la rue de l'Escolobieglio. C'est là le quartier le plus ancien de Saint-Antonin, pour une raison bien simple d'ailleurs, parce que c'est là, au fond de la rue Frézal, dans ce passage voûté qui existe encore, à côté de la maison de Monsieur et Madame Cantilio, qu'était le passage à gué de la voie romaine, oh, une voie romaine bien secondaire, qui allait de Cos à Najac, en franchissant l'Aveyron près du Sceau du Loup, passait à Vielfour, remontait jusqu'à Petit-Jean, descendait ensuite, soit par le vieux chemin de Petit-Jean, soit par l'ancienne côte de Peine, et arrivait à l'Aveyron. Il faut bien savoir que le pont de Saint-Antonin n'a été construit que beaucoup plus tard. La première mention que les archives font de notre pont le date et d'un texte daté de 1143. Donc nous pouvons penser que le premier pont a été bâti en 1143. Mais donc je reviens à ce que je disais. Saint-Antonin est donc un lieu de passage, sans doute moins important que d'autres, et on comprend que grâce à ce monastère, grâce à cet ancien chemin romain, une population se soit fixée là dans un lieu fertile, déjà bien défriché, et qui apportait, avec une terre relativement fertile, ce qui était le plus utile à ce moment-là, l'eau.
Monsieur Julien, vous nous avez parlé de la voie romaine qui allait de Cos à Najac. Alors, Najac, tout le monde connaît. Cos, c'est un tout petit village, très très petit, à côté d'Ardus. Pourquoi une voie romaine partait d'un petit village?
Oui, c'est-à-dire Cos, exactement, c'est une ville gallo-romaine dont il ne subsiste plus rien aujourd'hui que des ruines. Et des ruines, même pas des ruines, que les substructions des constructions que l'on peut mettre à jour quand on laboure très profondément. Et les cultivateurs de cette région, là au bord de l'Aveyron, dans la plaine d'Ardus, ne manquent pas, à l'occasion de labour très profonde, d'extraire des vestiges de l'époque gallo-romaine. C'était une station militaire au départ sur la grande route romaine de Toulouse, Tolosa, à Divona, Cahors. Et c'était donc aussi un point d'où, de départ de voies secondaires, et donc de celle dont j'ai parlé plus haut, qui allait de Cos, passait par Saint-Cyr, comme je l'ai dit, et arrivait à Saint-Antonin pour aller jusqu'à Najac.
Voilà, c'était donc une ville très importante.
Très importante, oui.
Monsieur Julien, vous en étiez au moment où vous nous expliquez l'importance du monastère de Saint-Antonin.
C'est important, c'est considérable. On la découvre à travers les bulles papales, les bulles des papes qui concédaient au monastère de Saint-Antonin soit des possessions, soit des souverainetés, ou qui leur accordaient des privilèges ou des libertés. Il faut savoir que ce monastère de Saint-Antonin était absolument indépendant de tous les évêques et que l'abbé du monastère, le prévôt, ne dépendait que du pape. Et c'est ainsi que par une bulle d'Alexandre III, nous découvrons le territoire sur lequel avait pouvoir ecclésiastique le monastère de Saint-Antonin. Et c'est énorme. Ils avaient les paroisses de Casal, de Saint-Cyr, de Monteils, de Sainte-Lalie-du-Cande, de Caylus, de Selgue, de Carandier, de Saint-Grégoire de Tortusson là-bas, au-delà de l'Exos, de Rousseyrolles. C'est énorme. C'est beaucoup plus que la commune de Saint-Antonin actuelle.
Et donc, nous sommes à l'époque de la féodalité et le monastère était le seigneur de la région.
Pas exactement. Ici, le monastère n'a jamais eu pouvoir de seigneur. Sans doute au début, au tout début de sa fondation, tout ce qui était autour du monastère et les territoires qui étaient cultivés autour dépendaient directement du monastère. Mais petit à petit, avec le développement de la ville, cette ville a eu besoin de sécurité, une sécurité qui ne peut pas être assurée par des moines bénédictins d'abord, puis augustins ensuite, à partir du XIe siècle. Et en cette époque troublée où le pouvoir royal après la mort de Charlemagne et au-delà s'effrite et où l'on voit les invasions des Normands, où il faut se protéger, on voit se développer le système social appelé la féodalité et le partage de notre pays, de la France actuelle, en différents duchés, comtés, etc. Et c'est ainsi que se développe et devient considérable le comté de Toulouse. le comte de Toulouse ne peut pas, lui, administrer de façon précise et directe tout le terrain de son tout le territoire de son comté. Il délègue donc son pouvoir, ici et là, à des seigneurs qui lui sont subordonnés, des sortes de lieutenants, et à Saint-Antonin même, on verra apparaître, à partir du XIe siècle, une famille de vicomtes que l'on croit être apparentés au comte de Toulouse. Ces vicomtes deviendront, eux, les seigneurs de Saint-Antonin. Ils auront pouvoir, comme tous les seigneurs de France, mais ils seront toujours les vassaux du comte de Toulouse. C'est donc à partir de là que nous appartiendrons à la province du Rouergue, au Rouergue ancien, le pays des Rutènes, à la vicomté de Saint-Antonin et au comté de Toulouse. En définitive, le grand chef de notre pays, ce sera le comte de Toulouse, et non pas le roi de France, que l'on ne connaît pas, hein, que l'on ne voit jamais. On ne s'en occupe pas, c'est pas lui, et nous le verrons dans la suite de notre récit, ce n'est pas lui qui intervient dans nos affaires, c'est le comte de Toulouse et ses vassaux, les vicomtes. Ces vicomtes dont nous parlerons au cours d'une prochaine émission, bien qu'il n'ait pas laissé dans notre histoire un souvenir impérissable. Sauvin, dont nous parlerons la prochaine fois.